Fontaine, Abbé Villard. Œuvre sonore d'art contemporain.
Bille en tête. Philippe Ligron et Duja.
Bonjour Philippe.
Salut Duja, bonjour à tous. Toujours en compagnie de Pascal Bourquin, journaliste reporter d'images à la section jurassienne de la RTS et surtout grand randonneur, auteur de livres qui s'appellent La vie en jaune, qu'on peut trouver chez lui exclusivement. Et ce sont des livres qui proposent, surtout à travers de nombreuses images, des balades, des randonnées à travers la Suisse. Salut à toi.
Bonjour à vous. Alors, on en était resté où? Peut-être à la région? Quelques sentiers, quelques randonnées, quelques balades à conseiller? D'ailleurs, est-ce que cette région du Jura bernois est riche en chemin jaune?
Absolument, elle est très riche, comme à peu près toutes les régions de Suisse.
Ouais.
Mais surtout, j'entends, ce qui est beau, c'est quand on a du relief. Et ici, tu le sais, puisque tu es d'ici aussi, du relief, on en a. Hein. Quand on est enfant de Moutier, on sait très bien qu'on habite au fond d'une cuvette, mais l'avantage d'une cuvette, c'est qu'il y a des bords, et que les bords sont absolument magnifiques.
Est-ce que c'est comparable avec le Valais, par exemple? Ou là, c'est quand même pas des collines, là-bas hein?
Alors non, c'est pas des collines. Ici, ça ne monte pas aussi haut. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la région du Jura bernois, ici, disons, entre Moutier et Bienne, on a des montagnes qui sont quand même physiquement assez difficiles à avaler. Et je me souviens, à l'époque, j'organisais des courses, des trails, et il y a des Valaisans qui arrivaient ici, la fleur au fusil, en se disant, oh, on vient un petit peu faire des courses de préparation pour se reposer. Et à la fin de la journée, ils étaient sur les rotules et ils étaient étonnés. Parce qu'on a quand même des pentes qui sont très très fortes, il y a un relief qui est accidenté, même si on ne monte pas aussi haut.
Je me suis fait le rémeux par les plateformes en courant, la descente, hein, juste la descente, à peu près un quart d'heure de course pour descendre. J'avais les genoux en compote, les cuisses massacrées.
C'est ça. Mmh. Et au niveau du décor, les plateformes, c'est absolument super. Ce Jura offre des points de vue fabuleux. Puis après, il y a les grands classiques. Hein. Ici, juste en dessus de nous, il y a la Tour du Mauron, qui est un des grands classiques. Et puis, un peu plus loin, évidemment, il y a le Chasseral, qui est un endroit fabuleux avec la Combe Grède. Mmh. Qui part de Villeray, qui malheureusement a été très endommagé ces dernières semaines par les intempéries. Mais enfin, on a Chasseral qui est un joyau. Et on a beaucoup de choses, quoi. Et puis on a tout le Clos du Doubs aussi. C'est quand même une rivière qui serpente entre des montagnes. C'est quelque chose qui est magnifique.
Ici, dans la région, on va dire, de l'Orval, Bévillard, Malrais, on va dire jusqu'à Arconvilliers, Tavannes. Est-ce qu'il y a des endroits, presque des passages secrets dans la montagne? Parce qu'on a vu qu'on avait fait une émission une fois auprès de la Patte en montant depuis Péry. Et là qu'on était à la Bergerie sur la rive, on monte depuis Bévillard. Et finalement, ils sont à 800 mètres de distance. On peut passer d'un côté à l'autre des montagnes. Moi, je trouve ça fascinant parce que j'adore la géographie aussi. Est-ce que tu as découvert des endroits où on pouvait passer d'un canton à un autre ou d'une région à une autre dans la région? Une espèce de passage un peu moins connu, il y en a?
Constamment, en fait, on se rend compte que, effectivement, comme tu viens de le dire, il y a seulement quelques kilomètres entre le Jura bernois et le canton de Soleure. Ouais. Et ici, quand on part de Bévillard, en très peu de temps, on est au bord des Rochers de Grange. Et ça, c'est extrêmement spectaculaire. C'est un cirque qui est véritablement très raide, un à pic. Et puis, quelque chose qui est très joli aussi, c'est de partir en fait de Kremine, Gensbrunnen, de monter au Weissenstein, et quand on redescend, de partir sur Soleure, et on arrive dans un ermitage. Et là, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans la gorge, qui est absolument spectaculaire. Donc, c'est l'ermitage d'Einsiedelei. Concrètement, tu vois quoi là? Tu vois que tu passes dans une gorge et qu'ils ont construit un ermitage, ils ont construit des chapelles, des bâtiments. Et c'est quelque chose d'assez surprenant. Tu descends du Weissenstein pour aller à Soleure et tu tombes là-dessus.
Ici, juste dans la région de Bévillard, tu voulais nous proposer une balade, mais comme on enregistre, il fait à peu près moins 25 en ressenti. Qu'est-ce que tu voulais nous faire comme balade?
Alors précisément, c'est ce que j'ai dit avant, soit d'un côté de monter à la tour du Mauron, ou alors de l'autre côté, où vous étiez tout à l'heure, de pousser un peu plus loin et d'aller au Rocher de Grange.
Ouais. Et puis les Rochers de Grange, tu fais quoi? Comment est-ce que tu les franchis? Tu escalades? Tu descends? Il y a des chemins?
Alors tu peux descendre sur les côtés, les rochers même, tu ne peux pas les descendre, mais par contre tu peux descendre d'un côté ou de l'autre. En fait, en Suisse, à tout moment, tu peux passer à peu près partout en suivant un chemin officiel. On a un réseau pédestre, mais vous vous rendez compte, 65 000 km, ce que ça veut dire? Tu sais quelle est la superficie de la Suisse?
48 000 km².
J'avais entendu 44 ou 45, mais enfin, c'est la même chose.
Ça a augmenté.
Ah, d'accord. On a annexé
c'est
qui
les, c'est comme les impôts.
Mais enfin, en gros, ça veut quand même dire qu'on a à peu près 1,5 km de chemin pédestre balisé par kilomètre carré de terrain. Et tu enlèves encore toutes les Alpes et les glaciers. Donc c'est monumental, la densité du réseau pédestre suisse.
Il lui reste encore quelques années pour relever le défi impossible d'avoir parcouru tous les chemins pédestres de Suisse. C'est l'unique, le RTSien, Pascal Bourquin.
Tu sais déjà quelles seront tes prochaines destinations maintenant ? Quand on parle là, tu sais déjà où c'est que tu vas te rendre prochainement ?
Alors là, en l'occurrence, demain et après-demain, je sais que je vais aller du côté de Martigny. Comme il y a encore de la neige au moment où tu me poses ces questions... Eh ben, ma foi, voilà, je dois faire des chemins qui se situent un peu en dessous de 1200 mètres. J'en ai trouvé quelques-uns par là-bas, qui sont dans la zone où je suis actuellement. Et après, ça dépendra beaucoup de la vitesse de fonte des neiges. Mon but cette année, c'est d'aller terminer le Matterhorn, donc du côté de Zermatt. Mais là, il est tombé des quantités de neige astronomiques, donc je ne suis pas prêt d'y aller. Donc j'aimerais faire le Matterhorn, j'aimerais faire le Saastal. Et puis de l'autre côté, j'aimerais aller faire tout le Val de Bagne, toute cette région-là. Et puis, de l'autre côté, j'aimerais encore terminer l'arc jurassien jusqu'à la Dole. Ben là, j'y suis presque, ce sera vite fait.
Dans les autres pays, là, la France, l'Allemagne, l'Italie, on a aussi un réseau de chemins qui sont de qualité équivalente, ou alors il y en a un point comme nous ?
À mon avis, il y en a un point comme nous. Alors, l'Allemagne, je ne connais pas vraiment, mais en France, par exemple, alors ils font des choses qui sont aussi assez intéressantes, mais ce n'est pas d'une précision et d'un entretien tel que ce qu'on peut avoir en Suisse.
Là, tu parles de chemins balisés. La Vie en Jaune parle de ces chemins pédestres balisés de jaune, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres chemins qui ne sont pas balisés en Suisse ? Peut-être des passages que certains escrocs ou contrebandiers utilisaient ? Ça existe toujours ?
Oui, alors il y a plein d'autres chemins qui ne sont pas balisés. Et même, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 65 000 km de chemins pédestres, 65% sont des chemins entièrement jaunes, donc relativement faciles. Il y a 34% de chemins rouges et blancs, donc ce sont des chemins de montagne, et 1% de chemins bleus et blancs. Donc ça, ce sont les chemins alpins, donc qui peuvent aller sur des glaciers où il vaut mieux être accompagné, éventuellement équipé. Mais... ça, c'est les chemins qui ont été retenus pour être chemins pédestres. Mais des chemins bleus et blancs, par exemple, il en existe beaucoup plus que ceux qui ont été retenus. Il en existe des très difficiles qui sont à faire avec prudence par des gens équipés, quoi.
On t'a déjà découragé ?
Le plus bel encouragement que j'ai reçu, c'était au début, quand j'étais chez ma coiffeuse, ah. Et qu'elle me dit comme ça, tranquillement, « Mais tu sais... je sais pas pourquoi ils disent tous que t'es un peu fou et que tu y arriveras pas. Moi, je trouve que c'est bien ce que tu fais. » Je lui ai dit « Ouais, vas-y, continue, tu me motives. » Finalement, c'est un peu la même philosophie que le chemin de Compostelle. L'important, c'est même pas le but, c'est même pas de franchir la ligne. L'important, c'est le chemin. L'important, c'est d'avoir du plaisir chaque fois que je marche. Ensuite, je veux dire, je marche, je passe des journées dans des conditions très difficiles où je vois à peu près rien, mais c'est statistique. Plus tu bouges, plus tu vas voir de choses, plus tu verras des choses exceptionnelles, c'est tout. Donc, je veux dire, des choses exceptionnelles, si tu veux en voir, excuse-moi, mais il faut bouger ton cul.
Bonjour monsieur, vous venez de gagner un repas avec Hervé Villard à Bévillard.
Non merci.
Philippe Pigron, nous partons sur le versant gastronomique, alimentaire, nutritionnel.
Oui, en restant dans le même domaine, Pascal, quand on parle, il y a des gens qui peut-être vont nous écouter en se posant les mêmes questions que je me pose depuis un petit moment, en me disant « mais moi, j'ai pas le physique, je suis pas prêt à ce genre de choses ». Alors j'ai plusieurs questions, hein, je te les envoie toutes comme ça, après tu réponds peut-être dans l'ordre. Mais déjà, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ça ? Est-ce que quelqu'un qui est pas forcément sportif ou qui aime pas marcher, il va trouver une source de plaisir à travers des balades comme ça ? Est-ce qu'il aura le niveau ? Et puis deuxième chose, est-ce qu'on parle à fleur ou fusil ou est-ce qu'il faut quand même un minimum se préparer ? Je veux dire, à travers une alimentation, est-ce que tu as des conseils à donner ? Est-ce que quand on part faire ce genre de choses, est-ce que c'est comme si on se mettait devant la télé ou est-ce qu'il faut prévoir quand même de l'eau ? Est-ce qu'il faut prévoir des bars céréaliers ? Je ne sais pas comment on peut dire tout ça, mais voilà, est-ce qu'on s'organise ?
Il faut se connaître, il faut connaître son corps, il faut connaître ses limites, il faut connaître ses possibilités. Parce que ce que je fais là, n'importe qui peut se lancer dans un challenge de ce genre. Ces chemins pédestres, ils sont faits pour être parcourus par tout le monde. Il y en a qui sont un peu plus difficiles. Ce sont les bleus et blancs qui sont très difficiles, les rouges et blancs qui sont un peu plus difficiles. Tous les jaunes sont relativement faciles. Tout le monde peut aller marcher sur ces chemins. Après, c'est une question de quantité, c'est une question de dénivellation. Et ça, c'est lié à la question de la connaissance de ton corps. Moi, j'ai fait des années d'athlétisme, j'ai fait du marathon, j'ai fait du trail, des courses de montagne. J'ai aussi fait des sommets, j'ai fait la Aconcagua, le Cervin, le Mont Blanc, etc. Donc, j'ai un passé. Et je connais mon corps et je fais en fonction de mon corps. Je pars avec relativement peu de choses parce que je sais combien de temps je peux tenir sans boire, sans manger. En général, je sais à l'avance, en regardant sur la carte, combien de temps je mettrai pour faire ce chemin. Ça, au début, toi, tu ne peux pas le savoir. Par contre, rien ne t'empêche de te dire, de prendre SwissMobile, de te dessiner un chemin et puis de te dire, voilà, il me dit 2h30, je vais aller voir. Puis tu regardes combien ça fait.
Moi aussi. En général, ça correspond ?
Ça dépend pour qui. Moi, je fais pratiquement toujours x0,6 et ça marche très bien. Donc, j'entends, aller marcher, aller faire ses chemins, tout le monde peut.
Et puis, en matière d'équipement, parce qu'on n'y va pas en tongs dans ce genre d'endroit, tu as des recommandations à donner ? Casquette, je ne sais pas, j'en sais rien. Est-ce qu'on doit se couper ?
Casquette au pied ?
Non, peut-être pas au pied, parce que ce n'est pas pratique. Il y a une tongue sur la tête. Non, est-ce qu'il faut des chaussures de marche ou est-ce que c'est une légende, ça ?
Ce que je vais vous dire va faire polémique dans le sens où moi, je fais partie de cette génération qui fait presque tout en basket de course. Je suis, on va pas dire en tennis, parce que de nos jours, on a des chaussures de course qui sont vraiment faites pour la montagne, pour ce genre d'exercice. Je fais beaucoup de chemins de ce genre avec des chaussures très légères. Tout mon matériel est toujours léger. Et évidemment, c'est contesté par certains qui voient mes photos et qui disent que c'est pas un bel exemple, que c'est dangereux, etc. Le seul danger que je vois, moi, réellement, c'est celui du maintien de la cheville dans des terrains instables. Mais ça, c'est juste une question d'habitude.
Complément alimentaire utilisé, ça serait bien de pouvoir en causer, Philippe.
Justement, comment tu te prépares, toi ? Quelles sont les choses que tu prends pour éviter d'avoir un creux ?
Très peu de choses. Par contre, je mange bien le reste du temps. Donc, le reste du temps, je mange de façon équilibrée. À savoir viande, légumes, féculents, de façon non scientifique, mais bien équilibrée, avec pas trop de sucre, pas trop de graisse. Et ce que je prends, c'est quand même quelques compléments alimentaires. Je prends notamment tous les jours de la chondroïtine glucosamine, mais ça, c'est surtout pour le cartilage, pour les genoux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les kilomètres que je fais, c'est rien, mais je fais à peu près 150 000 mètres de dénivelé par année. Donc 150 000 de montée, puis 150 000 de descente. Je prends aussi de l'astaxanthine, qui est un antioxydant, du krill.
Et du curcuma ?
Du curcuma, oui.
Ouais. Ouais. Mais c'est un antioxydant puissant. Ouais.
Tous les matins, j'en mets d'ailleurs dans mes jus, Philippe.
C'est très très bon, il paraît que c'est un des meilleurs antioxydants qu'on puisse trouver à l'état.
Le frais, c'est encore mieux.
Puisqu'on parle d'alimentation, peut-être juste un petit clin d'œil à ton frangin avant de se quitter. Olivier Bourquin, avec qui j'ai eu la chance de travailler quand il était professeur de sport à l'école hôtelière de Lausanne. Qu'en est-il maintenant ?
Il s'est lancé dans la diététique sportive et surtout, il reçoit du monde. Il a ouvert finalement un cabinet de consultation. Et ça a énormément de succès. Il a lancé sa propre marque de compléments alimentaires, BN Nutrition. Et il a fait beaucoup, beaucoup de chemin, oui. Donc c'est marrant parce que finalement, il s'occupait du sport à l'école hôtelière. Et maintenant, il s'occupe de nourriture chez les sportifs. Donc c'est assez rigolo de voir qu'il y a toujours ce lien.
On espère l'avoir prochainement dans une émission, Philippe. Et c'est très drôle, Pascal, parce que tu as dit il a fait beaucoup de chemin. Alors qu'il pourrait dire pareil de toi.
Alors, au sens propre, c'est sûr que je fais pas mal de chemin, oui.
Merci beaucoup, Pascal Bourquin.
Merci à vous.
Hello. Hello, man, it's me. I'm right here. See me? Right here, the guy with no shirt on. See me? I'll touch you, my breath, man. See me?
You get whatever you want. Are people getting ready to complete your wish? They say you are one of a kind. But all the people... They're praising you. Our fans become slaves like a carnival. The world ain't never seen a thing like this. Get a piece of the fame for all of us that want to be. But at your place, speaking all so me. The more you're tiring us, you are admiring us. And then you tease and you squeeze, then you fire at us. Oh.
hoping to be the one who's just getting shot.
À Bévillard.
Et maintenant, on va rencontrer David Krebs, qui est le patron de la Cantinita, qui est l'endroit où nous nous trouvons. Allez, on y va.
David,
ouais,
on peut te déranger dans une seconde. Ouais, on fait une petite pause, Philippe. On écoute un micro-trottoir.
Allez.
Bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre sur une pizza ?
Je ne mange pas beaucoup de pizza.
Pourquoi ?
Parce que je ne suis pas fan de ça. Mais une vraie pizza italienne ou une pizza n'importe quoi? Bah, italienne, c'est seulement la tomate. Le reste, c'est pas le même pays.
D'accord.
Bah, par exemple, les aux fruits de mer, c'est pas italien, c'est une autre sorte.
Ah ouais?
Oui, la base. Non. Non, attends.
Venez, on va prendre le train.
Vous prenez le train aussi?
Ouais. Alors, vous disiez?
La vraie pizza, la base, où c'est que la sauce tomate, il me semble que c'est italien. Mais dès qu'on rajoute des autres trucs dessus, c'est pas italien.
D'accord.
Mais le reste, je sais pas.
Ah, merci beaucoup.
Je suis même pas sûre que je dis juste.
Non, non, c'est pas juste, mais c'est pas grave.
Pas de soucis.
Merci beaucoup. Ouais. Ciao, ciao. La Cantinita, Philippe, c'est à Bévillard.
Oui, en compagnie de David Krebs, qui est le patron du bistrot. Salut, David.
Bonjour.
Alors, David, on est chez toi ici à la Cantinita, qui est une pizzeria renommée dans la région, même par-delà les frontières. Là, j'exagère un peu, mais apparemment, tu fais de bonnes pizzas. D'où ça te vient, cette passion?
Alors, moi, je ne suis pas du tout pizzaiolo. La renommée.
Écoutez ce que tu as dit avant, en fait.
Voilà. J'ai écouté, mais je veux le relancer.
Ah, d'accord.
C'est bien, Philippe. Oulala.
Non, je suis pâtissier.
Non, franchement, j'admire cette relance professionnelle.
La renommée de la pizzeria vient pas du tout de moi, vient de mon associé, M. Ingrosso, qui est malheureusement
en fait,
pas là.
Il est trop humble.
Voilà, exactement. Mais les pizzas, c'est lui. Ouais. C'est son histoire, c'est à lui.
Mais tu prends quand même un pourcentage sur ses ventes.
Ah oui, non. De toute façon, on est associé, il n'y a pas de souci. Mais on ne fait pas que des pizzas, on fait aussi des bons burgers. Ça, c'est plutôt mon côté à moi. Et de la cuisine, on fait des tartares de bœuf. Enfin, on a pas mal de choses, quoi.
Donc, cuisinier, pâtissier, quel est ton parcours?
Alors, moi, je suis pâtissier confiseur de métier. Et puis après j'ai pas mal voyagé et puis un jour j'ai toujours voulu me lancer à mon compte et puis à un restaurant, réaliser mes rêves, amener ce que j'ai amené dans mes voyages. J'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, aux États-Unis et puis les burgers, les États-Unis, l'Amérique du Sud aussi, on peut manger pas mal de burgers. Puis j'ai voulu un petit peu amener ce que j'ai vu dans mes voyages ici.
Il faut le souligner, tu as aussi la chance de pouvoir travailler avec une boucherie de renom dans la région.
Ah oui, exactement, oui, la boucherie de ma famille, c'est...
Krebs.
Krebs, voilà, exactement, c'est ma famille, ma maman, ma tante, voilà.
Et ça se passe comment avec eux? Ils te font des bons prix?
Oui, exactement, ouais, des très très bons prix, oui.
C'est important ça, j'imagine, enfin, on le dit souvent, mais c'est les produits de base qui comptent. Si on a de la bonne viande pour faire des burgers, hein, c'est ce qui nous différencie de ces fast-food qui n'ont que des espèces de tranches grises de matière dont on ignore si c'est vraiment de la viande.
Oui, alors après, il y a un juste milieu à trouver, parce que c'est toujours pareil, on parle beaucoup de prix, on parle de qualité, mais ce qui est le plus dur à trouver, c'est le juste milieu. Effectivement, parfois, dans la vie, on peut, dans la vie professionnelle, hein, dans la restauration, on peut trouver des prix plus bas, mais après, ben, on se rend compte qu'au final, au niveau coût de revient, prix de revient, eh ben, on n'est pas forcément gagnant parce que de la viande industrielle, tu la paieras peut-être moins cher, mais cette viande-là contiendra beaucoup d'eau, elle contiendra beaucoup de choses qui disparaissent à la cuisson et qui font qu'au bout d'un moment, ben, tu ne t'y retrouves pas.
Dans un burger, qu'est-ce qu'il faut comme viande, David Krebs ?
Ben, ça dépend. Je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on peut mettre tout ce qu'on veut dans un burger, mais le traditionnel, c'est quand même une bonne viande de bœuf.
Il y a quoi dans cette viande de bœuf, dans ce steak haché ?
Déjà, il y a un assaisonnement qui est assez familial, on va dire ça comme ça. C'est un bon morceau de viande de bœuf, comme il l'a dit. C'est du cuvard qu'ils mettent, par exemple, là.
Du cuvard.
Cuvard, c'est quoi le cuvard ?
Alors, exactement quelle partie du bœuf c'est, ça, je ne peux pas vous dire. Moi, je sais que c'est ça.
Et puis, on dit dans la région. Cuvard, en tout cas, je l'ai souvent entendu mes parents parler de cuvard. Le cuvard, Philippe.
Je ne connais pas. C'est la première fois que j'entends parler. Ça doit être très régional, quand même, comme terme.
Alors, d'après toi, pour faire un bon burger, il faudrait utiliser quel morceau du bœuf ?
Eh bien, s'il n'y a pas de règle absolue, ce qui est important, c'est d'utiliser... Ben, on va prendre de la viande B, on ne va pas prendre du filet ou du contre-filet ou du rhum sec, mais on va prendre peut-être... On peut prendre des morceaux dans l'épaule, on peut prendre un peu dans la cuisse aussi. Voilà. Et puis, ce qui est important, c'est d'avoir un peu de gras. Parce que si tu as une viande qui est trop sèche, qui est trop maigre, comme on dit, ta viande n'aura pas forcément de goût, puisque, rappelons-le, le goût est dans le gras. Il n'en faut pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une piscine olympique dans ton burger, en termes de graisse. Donc c'est tout un juste milieu qu'il faut trouver.
Quel genre de burger est-ce qu'on peut manger ici à la Continita ?
Alors, ben, y a des burgers avec du bœuf, il y a des burgers avec du poulet, il y a des burgers avec du saumon grillé, il y a des burgers végétariens parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode. Et puis, nous avons aussi un burger avec des crevettes. On a une vingtaine de sortes de burgers différents. Après, on change aussi en fonction des saisons, en fonction des... Comme maintenant, ça sera de l'agneau pour Pâques. On essaye de changer. On fait même le burger de la Saint-Martin avec du boudin, oui, au mois de novembre. Fin octobre, pendant la Saint-Martin. Voilà, on essaye d'être assez en fonction de ce qui se passe dans la région, quoi.
Du burger avec du boudin, en général, c'est le boudin qui t'appelle le burger.
On peut le voir comme ça. En tout cas, c'est original, c'est très créatif, ça. Et tout ça, ça vient de la maison des pains.
Okay.
Bonjour, c'est l'émission Bille en tête. Je veux savoir si vos enfants préféraient les pizzas ou les burgers.
Faut leur demander.
Salut. Tu préfères les pizzas ou les hamburgers?
J'aime bien les pizzas.
Pizza 1, burger 0. Peut-être une égalisation possible. Bonjour, mademoiselle. Bon, je crois qu'on va en rester là. Tu préfères les pizzas ou les hamburgers?
Un burger.
Burger.
Bille en tête.
Au niveau du poids, juste pour donner une idée, parce qu'on sait, tu sais, qu'à travers le monde, le Big Mac de McDo a été utilisé comme référence.
En fait, c'est 50 ans.
Ouais, pour calculer le pouvoir d'achat d'un habitant dans chaque pays. Ils ont utilisé ce Big Mac. Alors, essayons de faire cet exercice au niveau suisse avec un hamburger classique. Un hamburger classique que tu sers chez toi, c'est combien de grammes de viande par hamburger et combien le vends-tu ?
Alors, c'est 160 grammes de viande, le steak haché, de toutes les sortes qu'on a, donc de crevettes, de saumon, etc.
C'est toujours 160 grammes.
Voilà. Sur nous, on peut prendre un double.
Bien sûr, même à triple. Il y a eu jusqu'au triple. Le prix de nos burgers varie entre 14 francs et 22 francs avec des frites ou avec la salade. Hein.
C'est vraiment pas cher, c'est vraiment bon. Bon,
on se moque parfois de ces régions périphériques, mais qui ont une qualité de vie peut-être supérieure en matière de pouvoir d'achat. D'ailleurs, il y a des appartements à louer. Philippe, je sais que tu cherches un appartement. Ici, tu as des 4 pièces pour 800 balles.
Hein. Oh, bah alors attends, tu vas me donner l'adresse, je vais m'en occuper tout de suite.
Et on pourrait faire une coloc.
Ouais, et puis on mange des hamburgers.
Et hein. Puis on va à pied bosser à Lausanne, ouais. Grâce au sentier de Pascal Bourquin.
On peut partir maintenant. David, pâtissier-confiseur, quel est ton parcours par rapport à ça ?
J'ai fait mon apprentissage à Bienne dans une confiserie qui s'appelle la Confiserie Projet, que je vous recommande, qui est très très réputée. Et puis j'ai travaillé en tout 10 ans dans cette entreprise. Et puis après, je suis parti en voyage, je suis parti à l'armée. Et puis ben, il m'est venu cette idée d'un jour vouloir me lancer. J'ai pris mes petites économies. Ici, avant, c'était boulangerie et ils faisaient tea room. Et puis au début, j'ai commencé restaurant, tea room. Et puis maintenant, c'est fini en pizzeria, restaurant. Voilà.
C'est pas la cantineta, c'est la cantinita, c'est plutôt espagnol.
Cantinita, oui.
Tu fais aussi peut-être des mets d'origine sud-américaine.
Oui, alors on fait pas mal de tapas. On fait tous les vendredis des apéros tapas. C'est bien animé ici pour un petit village, je trouve ça.
Tapas nocturne.
Tapas nocturne, pas mal.
Je l'ai ressorti d'un vieux tiroir.
Non, on organise des trucs. On en fait des soirées aussi. On a donné des cours de salsa en l'occurrence. Ça n'a malheureusement pas bien pris ici. On est dans une région où les gens sont quand même assez carrés et puis n'aiment pas trop le changement.
Très carré et aussi très rond à certaines heures.
Oui, c'est juste très rond, voilà. Ouais, c'est pas mal aussi, oui. Alors on essaye de se développer, de faire des choses assez sympas pour que les gens les aiment. Mais l'esprit latin, au niveau de la cuisine, j'ai essayé au début que j'ai ouvert, mais
c'est
les gens n'étaient... Non.
Il y a encore des portes à ouvrir, les portes de la curiosité.
Voilà, il faut peut-être attendre quelques temps.
Beaucoup de photos de tes voyages ici. Tu étais aux États-Unis. Raconte-nous ton expérience burger la plus folle aux États-Unis. Il y a forcément un endroit, moi je suis allé à New York, il y a un endroit où on m'a dit c'est quasiment les meilleurs burgers du monde. C'est vrai que c'était hallucinant. Peut-être qu'on va trouver des endroits qui sont toujours meilleurs. Mais il y a tout à coup l'expérience ultime d'un burger où tu dis ça, c'est quelque chose qui n'existe qu'ici.
Alors c'est dans le Vieux Vegas. Ça s'appelle Earth Attack, c'est le restaurant.
Il y en a, sont déguisés en infirmières. Ils te promettent d'avoir un infarctus qui est déjà arrivé dans la salle du restaurant.
C'est fantastique, si vous n'essayez pas le burger, elle vous donne une petite fessée. Là, elles sont déguisées en infirmières. La bière est servie dans des...
Crise cardiaque, le nom du restaurant.
Ouais. Et puis les infirmières sont habillées, quand même, il faut le dire, pas en infirmière classique, infirmière très sexy, très glamour.
Et puis le film que tu collectionnes.
Il faut savoir que si tu fais plus de 120 ou 130 kilos, je crois que tu as frites à volonté gratuites.
Ouais.
L'idée, c'est l'absurde le plus total, mais l'idée c'est
frit, tout est frit, je crois qu'il frit encore une fois des frites, enfin au moins trois fois, dans de la graisse.
Il frit les frites dans de la graisse qui n'est pas chaude, tu vois, c'est vraiment l'idée.
Il frit les frites, on dit
et que, ben, c'est frit.
Nous frions.
Mais non, mais arrête, tu m'embrouilles. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de te faire péter le cholestérol, c'est ça?
Exactement, ouais. Alors vraiment, on peut aussi choisir la taille du burger, quelle size on veut.
Avec du bacon.
Avec du bacon, voilà.
Double cheddar.
Voilà, Swiss cheese.
Voilà.
Le Swiss cheese, ouais. C'est assez réputé là-bas. Voilà. Là, c'était une belle expérience.
Alors Philippe, juste, je crois qu'il te revient en mémoire la conjugaison du verbe frire. Le problème, c'est que c'est tendu sur son portable par Pascal Bourquin, et comme tu n'as pas tes lunettes, tu ne peux pas lire.
C'est-à-dire que là, oui, j'ai pas... enfin, c'est vraiment écrit.
En fait, ça s'arrête.
C'est quoi ce délire? Mais il y a au futur, ils friront.
Ça n'existe pas, c'est probablement comme le verbe pleuvoir, où tu peux pas dire
je
peux.
Si je dis je frire, nous, il y a plusieurs personnes, par exemple, siècle fil.
Mais par contre...
Mais nous.
Non.
Mais pourquoi pas, si on est deux? Je veux dire, avec Philippe, nous avons l'habitude de...
Faire de la friture.
De faire de la friture. Merci beaucoup pour ces indications. Si jamais vous avez une réponse à cette problématique, n'hésitez pas à nous envoyer vos réponses sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup, mon cher David Krebs.
Merci à vous.
Donc, la cantinita, les heures d'ouverture.
Alors, c'est du mardi... Le lundi, nous sommes ouverts de 7h30 à 14h. Du mardi au vendredi, de 7h30 à 23h, minuit, 1h, jusqu'à quand il n'y a plus personne. On est assez dispo, assez ouvert. Et le samedi, de 8h à, en principe, 23h. Dimanche, on est fermé.
Avant que je te coupe, tu allais dire que c'était sympa d'être venu.
Ouais, surtout à vous, je vous remercie. C'est une fierté pour moi d'accueillir des gens qui sont quand même connus dans notre petit village. Vous en faites parler, c'est bien. Et puis, c'est une belle fierté de vous accueillir chez nous.
Bah, c'est sympa, comme ça, on pourra venir bouffer à l'œil.
Voilà.
Mais pas du tout, mais ça va, quoi.
Il préfère en général faire le coup dans les restaurants étoilés, lui.
En tout cas, merci beaucoup, David. Bonne chance pour la suite. Et puis, nous, on vous souhaite un bon week-end, déjà. C'est très important. Profitez bien. On vous retrouve lundi matin, 9h30, pour d'autres aventures.
Nous serons où, Philippe?
Nous serons dans un endroit fantastique.
À Sion.
À Sion, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, on va vous proposer de faire la connaissance d'un garçon qui fait des choses extraordinaires, qui livre ses clients que des produits du terroir et qui livre en vélo et qui fait travailler aussi une population qui n'a pas forcément accès très facilement au travail.
On faisait du tricot, merci Philippe. Le mot de la fin, Pascal Bourquin.
Bon appétit.
La première, il est 10h.